On en parlait dans le journal, c'est une attaque d'une ampleur inédite et redoutée depuis plusieurs jours. Plus de 300 missiles et drones iraniens ont été tirés vers Israël cette nuit. 99% d'entre eux ont été interceptés, affirme l'État hébreu. C'est la première fois que la République islamique d'Iran s'en prend directement à Israël. Pour en parler, j'accueille tout de suite notre invité. Bonjour Jonathan Piron.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran, chercheur associé au GRIT. On le disait, c'est une grande première pour l'Iran qui jusque-là utilisait ses proxys pour attaquer Israël. Pourquoi avoir choisi maintenant de s'en prendre directement à l'État hébreu ?
Parce qu'on est dans la réplique de l'attaque réalisée par Israël le 1er avril contre le consulat iranien à Damas, qui était aussi une attaque d'une ampleur très forte, puisqu'attaquer une représentation diplomatique, ce n'est pas anodin. Et donc ici, il y a eu une volonté justement en fait des Iraniens de répliquer, de faire aussi une démonstration de force parce qu'il fallait réagir contre Israël et aussi montrer aux États-Unis, mais également aux alliés qui font partie de l'axe de la résistance, que la République islamique sait réagir et qu'elle a aussi les moyens de réagir directement maintenant contre l'État hébreu.
C'est aussi effectivement un message à ses alliés du Hezbollah et du Hamas palestinien.
Oui, il faut voir ça vraiment dans la globalité. Donc on ne peut pas uniquement considérer les réactions par rapport aux Israéliens, mais aussi aux États-Unis. Il faut bien se rendre compte aussi que l'Iran se trouve dans une configuration d'alliance avec ce qu'on appelle donc ses proxys. On retrouve le Hezbollah libanais, mais aussi les Houthis du Yémen, des milices présentes en Irak et qui sont pro-iraniennes. Et donc par rapport notamment à ses alliés, l'Iran devait démontrer que quand il est directement frappé, il a aussi une capacité d'action. Il y a aussi certainement des messages qui sont envoyés à l'intérieur du pays, puisque l'Iran est depuis très longtemps dans une rhétorique qui est très très agressive à l'égard d'Israël. Et donc aussi montrer à la population que face à de telles attaques comme celle vécue le 1er avril, eh bien l'Iran a finalement les moyens aussi de se défendre et donc finalement aussi de montrer à sa population que c'est un État qui est en forte capacité.
La mission iranienne à l'ONU a posté un message quelques heures après le début de l'opération. L'affaire peut être considérée comme close, peut-on lire. L'Iran espère qu'il n'y aura pas de riposte, mais la prise de risque est très grande de leur côté.
En effet, c'est d'ailleurs aussi une déclaration qui a été confirmée ici cette matinée par le chef d'état-major iranien qui affirmait en effet que la situation était maintenant terminée, que le dossier était clos. Maintenant, il va falloir voir en fait comment les choses vont être analysées et décodées du côté du gouvernement israélien. On sait que les États-Unis, visiblement, ne vont pas accepter qu'il y ait une nouvelle réaction d'Israël. Est-ce que les choses vont se calmer ? En fait, la question maintenant principale, c'est celle-là. Est-ce qu'on est finalement dans une situation où l'Iran a réalisé une opération de représailles et donc voulait directement frapper Israël ? On voit alors dans ce cas-là que c'est un échec, puisqu'en effet, 99%, 99% des moyens déployés ont été neutralisés. Ou est-ce qu'on est plutôt en fait dans une dissuasion ? Et alors là, c'est autre chose. Parce qu'on a vu, en effet, durant toute cette nuit, plusieurs espaces du Moyen-Orient complètement bloqués, justement, par cette position israélienne, par cette action iranienne. On a vu notamment des espaces aériens qui ont été fermés. On a vu également des forces américaines et britanniques se déployer pour intercepter les drones, mais également des forces jordaniennes. Et donc, on est quand même dans une opération de grande ampleur qui a aussi été finalement annoncée à l'avance par les Iraniens, avec des cibles également qui semblent avoir été déterminées, avec également une opération qui a duré très longtemps. Donc, le cadrage finalement était présent, mais on est quand même aussi dans une démonstration de force de grande ampleur. Vous l'avez dit, c'est la première fois depuis 1979 que les Iraniens frappent directement Israël, et avec quand même aussi la mobilisation de moyens importants. Donc on est peut-être plus aussi dans une situation de dissuasion. À voir donc par la suite comment Israël va vouloir répliquer ou pas.
Oui, il y a eu cette démonstration de force militaire. Est-ce que l'Iran aurait pu aller plus loin ? Est-ce qu'ils en ont encore sous le pied militairement ?
L'Iran dispose en effet de toute une série de moyens militaires, ce qu'on appelle notamment des moyens asymétriques. Il y a des missiles balistiques qui sont présents. Il y a aussi toute une série d'autres moyens d'action. Donc, par exemple, l'Iran pouvait aussi mobiliser ses proxys, avoir une intervention directe et plus forte, par exemple, du Hezbollah, qui aurait pu tirer aussi ses propres projectiles sur Israël, de même des outils, d'arriver en fait à une saturation du système de défense. Ici, l'Iran n'est pas allé aussi loin. C'est la preuve aussi, finalement, que l'Iran ne cherche pas à l'escalade. Ça ne va pas dans ses intérêts, parce que l'Iran sait pertinemment qu'en cas de confrontation directe et prolongée contre Israël et contre les États-Unis, il est perdant. Donc en fait, Téhéran, c'est plutôt finalement maintenir cette espèce de patience stratégique qui vise à épuiser Israël, qui vise aussi à isoler Israël. Maintenant, de ce côté-là, c'est peut-être un échec, parce qu'on voit justement que l'attention aujourd'hui n'est plus tant portée sur le conflit entre le Hamas et Israël, mais maintenant entre Israël et l'Iran.
Vous le disiez tout à l'heure, les États-Unis tentent par la voix de Joe Biden d'éviter l'embrasement dans la région. Est-ce que Benjamin Netanyahou peut et est prêt à entendre cet appel et est-ce qu'il faut s'attendre à une riposte ?
C'est là toute la difficulté, en fait, c'est de voir dans les prochains jours comment cette riposte, cette réaction va être analysée du côté israélien. Au vu néanmoins de ce qui va être analysé comme un échec de l'opération de la part du gouvernement israélien, il semble peu probable en fait que d'autres opérations par la suite ne soient pas entreprises par Israël contre les intérêts iraniens dans la région. Il va falloir voir par exemple si des attaques, des cyberattaques ne vont pas être réalisées contre Iran, on a déjà vu ça par le passé, et si aussi d'autres opérations ne seront pas encore menées contre les intérêts iraniens, notamment en Syrie, que les causes du désaccord, les causes de la crise n'ont pas disparu. Il n'y a pas de résolution du conflit, il n'y a pas d'autres garanties non plus qui ont été données, par exemple, dans le cadre du conflit entre Hamas et Israël. Donc on reste quand même dans une situation de tension latente. L'escalade, finalement, n'avait peut-être pas arrivé à court terme, mais le danger de déstabilisation est quand même toujours présent dans la région.
Il y aura en tout cas un avant et un après cette nuit du 13 au 14 avril. On a basculé dans une autre phase du conflit ?
Très certainement, on arrive vraiment maintenant ici dans une confrontation directe avec également toute une série de nouveaux positionnements. Le fait par exemple que les Jordaniens aient ouvert leur espace aérien à Israël, aux alliés aussi, soient aussi intervenus pour abattre des drones, ce n'est pas anodin. Le fait aussi qu'il y ait toute une série de déclarations qui se soient faites notamment de l'Arabie Saoudite amène aussi des reconfigurations. Donc il y a une nouvelle étape, un nouveau processus qui est maintenant en cours de route et on est quand même encore un peu dans le brouillard. Donc il va falloir voir comment les choses vont s'éclaircir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, cela reste une opération inédite de grande ampleur qui a été menée aujourd'hui par le régime iranien.
Et on continuera à suivre ça toutes les semaines qui arrivent sur RFI. Merci Jonathan Piron. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran et chercheur associé au GRIT.
Merci.